Henri-Marc Mutel, Chantal Le Montagnier, Djoubaka ainsi que Michel Bézikian sont déjà au galop. Une heure à cheval avec Gaspard Koenig, notre invité, ainsi qu'avec Montaigne, dont il a suivi la trace. Une heure, ne vous plaignez pas, des mois de voyage, le cul sur la selle pour l'auteur des essais. Tout autant pour vous, Gaspard Koenig. Point de départ, la tour de Montaigne à l'entrée du Périgord. 2500 km plus tard, vous étiez à Rome, vous êtes parti le 22 juin 2020. Montaigne, vous avez précédé, c'était en 1580.
France Inter, l'heure philo. Patricia Martin.
Gaspard Koenig, bonsoir.
Bonsoir.
Montaigne vous a servi de guide. En fait, c'est une présence un peu tutélaire qui aurait pu vous entraver, peut-être vous arrêter même dans votre course. Et à vous lire, on se dit que pas du tout. Au contraire, ça a été une présence très, très bienveillante.
D'abord, c'était un guide au sens propre du terme. Mmh. C'était un guide touristique puisque j'avais son journal de voyage avec moi sur Kindle, technologie aidant.
Et je vous avez respecté que scrupuleusement.
Hein. Assez, aussi scrupuleusement que possible. Et on retrouve les paysages qu'il décrit, certains. On retrouve parfois le caractère des habitants. On retrouve la structure des villes. On retrouve toutes les villes, d'ailleurs, parce que toutes les villes par lesquelles il passe existent toujours aujourd'hui sous les mêmes noms. Et donc, c'est assez émouvant de 440 ans après. De suivre un guide de voyage.
Avec un jeu de pistes parfois assez amusant.
Exactement, et donc dans certaines villes, j'allais trouver les vieux conservateurs, les bibliothécaires, des gens qui pouvaient m'aider à retrouver un peu les traces de Montaigne, un puits dont il part, un neuf château, et alors qu'il faut vraiment connaître la ville pour pénétrer dans un jardin privé, je dois l'avouer. Et aller retrouver le puits. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit ce livre, quelqu'un m'a écrit en disant j'ai fait la même chose. J'ai été voir le puits moi aussi. Et j'ai peur que ce jardin devienne extrêmement fréquenté.
Et ce sera à cause de vous. Voyager à cheval, Gaspard Koenig, c'est à la fois apercevoir la ligne d'horizon. Ça a été le cas pour Montaigne et c'est le cas pour vous. Mais c'est aussi un exercice d'introspection, c'est-à-dire regarder dedans soi, comme l'a écrit Montaigne.
Oui, d'ailleurs, c'est le but de Montaigne quand il voyage, c'est de trouver ce qu'il appelle son arrière-boutique, l'endroit où l'on est bien avec soi. C'est un exercice de dépouillement, au fond, assez stoïcien, qui n'empêche pas de s'ouvrir aux autres et de parler aux autres, parce qu'on est en voyage, quand on est en voyage, on rencontre constamment autrui, on est, en tout cas dans mon cas, constamment dans le besoin. Montaigne était accompagné de serviteurs, de gentilshommes, donc il y a toute une interaction sociale. Mais en même temps, on se recentre sur soi et on apprend à éliminer ce qui n'est pas nécessaire, à la fois d'un point de vue matériel, c'est-à-dire que les bagages, c'était en particulier dans mon cas, extrêmement limité.
À minima, et vous pesiez moins sur le dos de votre jument à l'arrivée qu'au départ.
Elle aussi pesait moins.
5 kilos, dites-vous. Elle aussi,
oui,
la pauvre.
On a tous les deux perdu pas mal de poids. Mais vous voyez, c'est assez intéressant ça, par exemple, parce que le corps, c'est pas parce qu'on, évidemment, qu'on s'arrête de manger ni quoi, mais on perd des kilos tout de suite très vite. Et après, ça se stabilise, parce que le corps comprend l'effort qui lui est demandé et enlève tout ce qui pourrait nuire à cet effort. Et ce qui vaut sur le plan matériel vaut aussi sur le plan intellectuel, au fond. J'ai très peu lu, j'ai absolument jamais regardé les informations, je n'entendais du monde que ce que les gens m'en disaient,
ce qui
est assez intéressant. Et évidemment, j'étais coupé de ma propre famille, que j'appelais bien sûr.
Qui ne vous a pas manqué non plus, vous le racontez, parce qu'à un moment donné, votre femme et vos enfants viennent vous rejoindre, vous les voyez avec bonheur, mais bon voilà, vous avez pensé à eux évidemment entre-temps, mais sans que ce soit un manque.
Ben justement, je me suis interrogé sur ce qu'était le manque. Et au fond, le manque est un sentiment un peu égoïste. Quand quelqu'un vous manque, c'est son propre confort à soi qu'on réclame, son propre confort affectif.
C'est le philosophe qui parle.
Mais c'est aussi l'être humain, au contraire, parce que ça, je l'ai éprouvé. Et quand on est bien avec soi-même, quand on est bien dans cette bulle, dans cette arrière-boutique, le contact avec l'autre devient un plus. Mais pas forcément quelque chose qui est strictement nécessaire. Et les stoïciens faisaient des stages de pauvreté volontaire. C'est-à-dire que même les riches patriciens allaient passer quelques semaines dehors comme des mendiants pour apprendre à vivre sans. Et du coup, considérer que tout le reste, au fond, est un luxe dont il faut jouir. Et j'en jouis à nouveau. Et Montaigne en jouissait parce que c'était un mondain. Il était investi dans la politique. Il a été juste après, d'ailleurs, son voyage à Rome, maire de Bordeaux. Mais il a aussi appris qu'il peut vivre sans. Et donc la vie lui paraît beaucoup plus légère.
Et que les îles flottantes aux truffes dont vous vous êtes régalé à un moment donné, dont vous vous régalez à un moment donné, bon, même si c'est pas le pain quotidien, de temps en temps ça fait du bien.
Absolument. Et d'ailleurs, Montaigne n'a rien contre le luxe. Il est fasciné par les techniques de son époque. Il aime le progrès. Mmh. Il s'intéresse beaucoup plus aux fontaines artésiennes qu'aux tableaux de Michel-Ange.
Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes assez frappé, vous le racontez, par la technologie.
Oui,
ce sont des choses que vous voyez réellement, qui vous sautent aux yeux.
D'abord, j'ai utilisé la technologie pour ce voyage, donc ce n'était pas un voyage à l'ancienne. C'est plus possible de voyager à cheval aujourd'hui comme on voyageait à cheval autrefois, parce que les routes étaient faites pour le cheval, parce qu'il y avait des relais de poste.
C'est sûr que le bitume, elle en a...
Voilà, nous avons des problèmes de fer sur le bitume. C'est une situation complètement différente.
Ouais. Jean Lacouture, lui-même auteur d'une biographie de Montaigne, pour les plus jeunes, je dirais ça a été un grand journaliste, un écrivain, un intellectuel engagé à gauche. Il était bordelais, comme par hasard.
Montaigne a passé une grande partie de sa vie à cheval. Il disait si les destins m'avaient été favorables, si j'avais réalisé comme je voulais, citant Virgile, j'aurais passé ma vie le cul sur la selle. Je crois que c'est assez vrai. D'abord, c'était un homme qui était passionné par le monde, et à cette époque, quand on avait sa résidence principale à Montaigne, non loin de Bordeaux, ou bien à Bordeaux quand on était maire de Bordeaux, comme il l'a été pendant 4 ans, on avait constamment, pour aller à Paris, on faisait quand même une douzaine de journées de cheval pour aller à Paris, autant pour revenir. Quand on n'était pas arrêté sur la route par quelques bandits ou quelques groupes militaires huguenots, puisqu'il était catholique, et il a toujours été très bien traité, parce qu'on savait que c'était un libéral et un homme qui se conduisait bien avec les huguenots de son entourage, donc ça n'a jamais mal tourné pour lui, mais 2 ou 3 fois ça aurait pu beaucoup plus mal tourner. Donc c'est un homme qui a eu une vie extrêmement agitée, et à cette époque, avoir une vie agitée, c'était avoir une vie sur la selle d'un cheval.
Mais d'ailleurs, à l'époque, savait-on qu'il était Michel de Montaigne ? Pas forcément, quand on le voyait arriver dans un village.
Non, mais de même que les gens ne savaient pas non plus qui j'étais.
Oh, un peu quand même, parce que comme vous avez écrit pour Le Point, on pouvait quand même un peu vous repérer, non ?
Non, très peu. C'était vraiment extrêmement marginal. Et Montaigne, effectivement, est cavalier, ce qui n'est pas non plus la règle totalement à l'époque, puisqu'on peut aussi voyager en diligence. Et lui, il aime monter à cheval.
Il a souvent changé de monture, lui.
Alors, il change de monture tous les soirs. D'ailleurs, il ne parle absolument jamais de sa relation avec le cheval.
Alors qu'il aimait les animaux. Enfin, on en parlera, mais il aimait les animaux. Il les respectait.
Dans les essais, il y a de très belles pages qui presque annoncent l'antispécisme dans l'Apologie de Raymond Sebond. Mais en revanche, le cheval, il en parle comme cavalier. Il ne parle pas de sa monture. Il dit bien d'ailleurs qu'il n'a jamais sellé un cheval lui-même, puisque c'était les palefreniers qui le faisaient. En revanche, il aimait l'exercice. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, au fond... tous les aristocrates et aussi tous les politiques étaient des sportifs, forcément, parce que monter à cheval, ça, c'est un exercice physique. Et donc Montaigne décrit aussi le fait qu'il ne s'ennuie pas à cheval. Il ne s'ennuie pas et il ajoute une nuance. Il dit « je m'ennuie uniquement quand la route est droite ». Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté également. Et pourquoi ? Parce que quand la route est droite, on en aperçoit la fin. Et donc chaque pas... est une sorte de pas négatif, de pas arraché à la destination finale. Alors que quand on ne voit pas le but, eh bien, on jouit encore mieux du moment présent. On ne va nulle part, on oublie la destination, on oublie l'objectif, on oublie le projet. Et au fond, c'est une métaphore de la vie pour Montaigne, parce qu'il écrit de la même manière, en digression, il voyage en aléa, en détour, et il considère que la vie elle-même est faite pour être menée de manière aussi plaisante, curieuse et surprenante que possible.
Mais est-ce qu'il a fui quelque chose en partant ?
Très clairement, puisqu'il il a cette phrase très célèbre, je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais ce que je fuis, quand il part de la tour de Montaigne. Alors pour être franc, parce que lui, il se dit comme il est, donc il expose aussi ses pires travers, et il explique qu'il fuyait également les épines domestiques. Il en avait marre de son ménage, il en avait marre de prendre soin de ses champs, d'avoir cette vie un peu isolée, recluse, et il avait envie de voir le monde, il avait envie de partir. Mais il fuyait aussi les maux de son époque, d'une époque qu'il n'aimait pas, il était déjà nostalgique, voilà déjà quelqu'un qui disait c'était mieux avant.
Ce qui est étonnant pour un homme comme lui par rapport à ce qu'il écrit dans les essais.
C'est-à-dire qu'il
était un peu il était conservateur quand même.
Oui et non parce que il était aussi conservateur que Pompidou, c'est-à-dire que d'un côté, il aimait le progrès clairement et de l'autre côté, il considérait que la société ne devait pas évoluer par grande rupture mais par ordre spontané. Et il déteste clairement les révolutionnaires de son époque. En ce sens, il n'est pas vraiment, il ne fait pas partie des humanistes. Moi, quand je suis parti, je pensais que j'allais à la poursuite de l'humanisme européen. C'est un peu ça qui m'animait. Mais en fait, plus je l'ai lu, plus j'ai voyagé, plus je me suis dit, mais c'est pas un humaniste, Montaigne. Parce que l'humaniste, d'abord, il croit en la raison humaine et il pense qu'on peut réformer les choses et que la route de la société est un progrès continu. Montaigne est beaucoup plus sceptique sur l'ensemble de ces points, beaucoup plus modéré. Et c'est ça qui en fait aujourd'hui, je pense, tout le charme.
Gaspard Koenig, vous êtes donc notre invité jusqu'à 21h. Je ne l'ai pas encore dit, mais en fait, ce voyage, vous l'avez relaté, raconté dans un livre aux éditions L'Observatoire, notre vagabond de liberté. Patti Smith sur France Inter, une reprise de Pastime Paradise de Stevie Wonder.
Martin. Le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à façonner la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres vies, fantaisies et usances et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps n'y est ni oisif ni travaillé. Et cette modérée agitation le met en haleine. Je me tiens à cheval sans démonter, tout coliqueux que je suis, et sans m'y ennuyer, 8 et 10 heures.
C'est quand même assez hallucinant, Gaspard Koenig, parce que 8 à 10 heures par jour sur un cheval, alors qu'on sait les douleurs. Montaigne était un homme qui avait des calculs, enfin bon, qui souffrait horriblement, qui avait la gravelle, c'est ça, hein ?
Oui, il en parle beaucoup d'ailleurs dans son journal de voyage, puisqu'il allait prendre les eaux dans les différentes stations thermales sur son parcours.
Donc comment a-t-il fait pour mettre cette douleur entre parenthèses et tenir sur son cheval autant. Parce que vous avez parcouru 30 km par jour, c'est ça, et lui, le double.
Alors, quand je regardais les gens, je voyais sur son journal de voyage les étapes de Montaigne, je me disais, mais je pourrais jamais faire ça. Parce qu'il faisait des étapes de 70 à 80 km, tout simplement parce qu'il était sur des chevaux frais, et que donc il pouvait trotter et galoper quasiment toute la journée. Alors que moi, je devais ménager ma monture, comme dit Racine. D'abord, je marchais la moitié du temps. Moitié en selle, moitié en marche. Mais là où je rejoins Montaigne, c'est que cette exercitation est effectivement très saine, vous met les pensées dans l'ordre, si je puis dire, que l'alternance d'être à cheval et à pied permet de faire jouer différents muscles et donc de ne jamais se sentir, même quand l'effort est difficile, de ne jamais se sentir complètement épuisé ou éreinté. Je pense que c'est la même chose pour le cheval aussi. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Montaigne parle de la variété et de la diversité. Et au fond, quand on voyage en avion aujourd'hui ou en train, on voit rien du tout de la variété et de la diversité. Et souvent, on peut parcourir 15 000 km, mais on arrive dans des villes à peu près équivalentes. On a notre application qui marche pour commander la même voiture, on parle la même langue et on est à peu près dans le même hôtel. Donc le décor change à peine. Alors que là, je voyageais tout près de chez moi, puisque les deux premiers mois et demi en France. Et pourtant, comme je voyageais d'un pas très lent sur les chemins, je devais d'abord constamment exercer mon cerveau. C'est un effort cognitif constant pour comprendre par quel chemin je pouvais passer.
Et où vous étiez exactement ?
Où j'étais, puis il y a des obstacles.
Ça n'allait pas de soi.
Il y a des obstacles absolument partout. Quand on est à cheval, des petites chicanes où les piétons peuvent passer, par exemple, vous sont interdites. Donc, il faut faire de longs détours. Il faut trouver parfois des guets parce qu'on peut pas passer sur les ponts. Donc, il faut essayer de trouver des solutions de contournement quand un chemin est bouché, quand un paysan a privatisé un chemin, ce qui arrive. Donc, on est constamment en train de réfléchir. Et deuxièmement, on est constamment en train de regarder. Et on voit un monde tellement riche qu'on ne voit pas, évidemment, dans un autre moyen de transport. D'abord parce que le cheval vous invite dans la nature. Pour une raison très technique, c'est que l'odeur du cheval couvre celle du cavalier. Et que le cheval est une proie. Donc, le cheval n'est pas un prédateur et n'affole pas le reste de l'écosystème. Et donc, vous voyez des animaux très près. Que vous voyez assez peu à pied. Vous voyez des biches à 1 mètre, 2 mètres qui s'aperçoivent de votre présence vraiment au dernier moment parce qu'elles ne vous sentent pas. Et puis, vous voyez les gens. Et les gens, les êtres humains, quand vous êtes à cheval, viennent vous parler naturellement et font montre quelque part d'une générosité qui vient du fond des âges, d'une hospitalité aussi, puisque je demandais le gîte
pour vous
et pour mon cheval. Et donc, il fallait toujours trouver un pré, un bout de canapé, c'était compliqué. Et les gens vous parlent, et du coup, vous les voyez dans toute leur diversité, leur singularité, justement. Vous voyez des vies extrêmement complexes, parce que les gens réfléchissent, font plusieurs choses, philosophent à leur manière. Et Montaigne dit bien qu'il a mieux philosophé avec les laboureurs qu'avec les grands prévôts de l'université.
Oui,
il détestait les érudits et les pédants. Et je trouve que j'ai beaucoup plus appris, au fond, et philosophé dans ce voyage, que dans une bibliothèque.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas, de ce point de vue-là, l'élite d'un côté, on va dire, et les gilets jaunes de l'autre, par exemple, puisque vous avez rencontré des gilets jaunes. Vous avez rencontré même une femme qui s'appelle Roselyne, c'est ça ? Qui vous dit, mais dites-leur qu'on vit bien, qu'on vit bien en province.
Mais enfin, c'est-à-dire que ces sujets d'élite et de pas élite et tout ça ne se posaient plus trop. Parce que comme j'étais couvert de boue et j'étais vagabond, en fait, j'étais dans la position du vagabond. Le vagabond, c'était un statut social jusqu'à récemment. D'ailleurs, c'était défini dans la loi. En deçà, je crois, de 10 sous. On était 10 sous dans la poche, on était vagabond. Et le vagabond était accueilli de ferme en ferme. Il était respecté pour ce qu'il était, c'est-à-dire un nomade qui colporte les nouvelles, qui distrait un soir, qui éventuellement aide un peu au foin. Moi, j'ai aidé, par exemple, à la cueillette des mirabelles. Et ce que je veux dire, c'est que ça met sur un pied d'égalité immédiat et qu'il n'y a plus que deux êtres humains, l'un en face de l'autre.
Y compris quand on est à quelqu'un en face de soi avec lequel on n'est pas d'accord, ce qui est le cas avec un certain Paul. c'est ça, il s'appelle Paul, qui, bon, dont les sympathies politiques ne sont pas les vôtres. Et vous dites, mais si je l'avais appréhendé autrement qu'en l'ayant en face de moi, j'aurais sûrement pas eu le même rapport avec lui.
D'abord, j'étais dépendant des autres. Donc, quand vous êtes dépendant des autres et de leur générosité, vous n'êtes pas là à leur faire la leçon. Mmh. Et puis, Montaigne, il a une méthode qu'il décrit très explicitement. Il dit, il faut faire parler les gens de ce qu'ils savent. Et donc, j'étais pas là pour donner mon opinion, mon avis. J'étais là pour comprendre le leur.
Et il dit aussi une autre chose que je trouve remarquable, c'est que la défiance attire l'offense.
Complètement. Et d'ailleurs, il dit bien que quand il a été, lui, séquestré par des brigands, Montaigne, ça lui est arrivé deux fois dans sa vie, eh bien, il dit, c'est ma bonne mine, c'est mon air avenant, c'est au fond ma candeur qui m'a sauvé. Et ça, c'est vraiment toute l'incroyable subtilité des rapports humains, parce que là, nos rapports n'étaient intermédiés par aucune application, par aucune recherche Google, par rien. C'était des purs rapports humains. Il fallait que les gens me fassent confiance, alors que j'aurais pu être un truand qui connaissait pas mon identité. Que
vous auriez pu les dévaliser pendant la nuit, etc.
Que je ne donnais rien en gage. Ni rien. Et je me rappelle d'un moment particulier où j'arrivais dans une ferme, et puis je devais, donc ils m'avaient offert l'hospitalité, donc j'allais y dormir. Et puis le couple qui y logeait partait pour la nuit. Et donc, me proposer de camper dans leur jardin. Et je leur ai dit, mais quand même, parce que le camping était un peu fatigant à la longue, j'ai dit, est-ce que je pourrais pas juste prendre un petit bout de canapé?
Dormir dans votre lit, puisque vous n'êtes pas là. Non,
je n'aurais pas été jusque-là. Bon, je suis fini dans un canapé à côté d'un chien qui ronflait. Mais c'était déjà très bien. C'était déjà un grand luxe par rapport à mon ordinaire. Et j'ai vu que la femme hésitait en disant, mais on va laisser cet homme dans notre maison alors qu'on ne le connaît pas. Et là, je leur ai dit, oui, mais comme ça, vous voyez, je pourrais garder la maison quand vous n'êtes pas là. Et donc, tout d'un coup, suspect, j'étais devenu au contraire allié. Et elle a rigolé, elle a dit ah bah oui, vu comme ça, effectivement, d'accord. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est des petits mots, des petits gestes, des petits regards qui fait que tout d'un coup la confiance se crée, et qu'effectivement quand vous êtes vous-même confiant et avenant, vous créez ce cercle vertueux. Et que, bien sûr, nous vivons dans une société de défiance qui a été décrite comme telle par Alain Perfit, par des économistes qu'a eu Calgan, parce que tout est médié, au fond, par des structures centrales. Mais quand vous rétablissez une forme d'immédiateté anthropologique, bien les êtres humains sont tous les mêmes, et vous retrouvez ce que David Graeber, l'anthropologue, appelle le communisme de tous les jours, cette espèce de don sans contre-don qui fait tellement chaud au cœur et qui m'a rendu tellement joyeux et optimiste, en fait, au long de ce voyage.
Montaigne a eu beaucoup de disciples, mais il n'y a pas d'école, au fond. Pourquoi ? Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Montaigne n'est pas un philosophe qui a construit un système.
Il se considérait lui-même comme un philosophe. Oui, ça c'est clair.
Bah, en fait, il a quand même inventé la notion d'essai. C'est lui qui écrit les essais. Maintenant, c'est être essayiste, c'est presque un métier. Et donc, un essai, ça veut bien dire ce que c'est. C'est-à-dire, c'est pas un système qui donne la vérité du monde. C'est un système qui s'essaie et qui donne des intuitions, qui digresse, qui parfois se contredit, parce qu'il donne au fond la vérité d'une pensée en mouvement.
Et qui accepte l'incertitude, pour le coup, ce qui est aussi une preuve d'intelligence.
Et qui, alors Montaigne se réclame du pyrrhonisme, du scepticisme, donc il ne pense pas qu'il puisse y avoir de vérité définitive, il ne cherche pas à en défendre aucune, il cherche à se comprendre, et faire comprendre aux autres la manière dont ils pensent, dont ils cheminent. Et c'est une certaine conception de la philosophie qui est évidemment aux antipodes de la philosophie analytique aujourd'hui, qui voudrait tout mettre en chiffres, tout numériser et produire une vérité irréfutable. Et c'est au fond une manière de philosopher qui est originale par rapport à l'Antiquité, à laquelle il se réfère pourtant si souvent, et qui est au fond très continentale, très européenne, et qui, je pense, se poursuit aujourd'hui chez les philosophes qui, justement, essayent d'être intelligibles avant tout, et qui n'essayent pas de s'abriter derrière des mots complexes ou des concepts abstraits pour masquer, au fond, la superficialité de leur expérience humaine.
Alors, quand on veut lire les essais, par exemple, comment faut-il faire ? Faut-il prendre, parce que c'est une langue un peu difficile, si on l'apprend telle que Montaigne l'a écrite. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, Gaspard Koenig ?
Alors moi, je vais être très franc avec vous, j'avais jamais lu les essais dans leur intégralité avant d'entreprendre ce voyage, donc ça faisait partie du voyage de vraiment lire les essais. Et j'ai pris intentionnellement une édition où l'orthographe était modernisée, donc vous aviez des S et pas des F par exemple, donc les choses étaient lisibles, mais où les mots, la syntaxe étaient totalement inchangés. Et c'est un effort réel. Il faut une concentration forte sur chaque phrase, et donc ça ne se lit pas en tournant les pages. Moi, ça m'a pris 3 mois, je dirais pas à temps complet, mais presque. Et vous lisez 4-5 pages en 1 heure et vous êtes content. Et en même temps, c'est très gratifiant parce que, d'une part, quand vous arrivez à percer le sens, eh bien, il y a une manière de faire, de dire, il y a une inventivité linguistique incroyable parce que Montaigne, il prend des mots de toutes les langues, de l'italien, du gascon, du latin, du français. Il invente énormément de mots que nous continuons à utiliser aujourd'hui. C'est la langue d'avant l'Académie française. Donc c'est la langue totalement libre et c'est le français sauvage. C'est pas le français ratiboisé qui arrive au XVIIe siècle avec les grands classiques. Non, et c'est une langue vivante, parfois sexuelle, parfois truculente, encore un peu rabelaisienne, si vous voulez. Et donc ça, déjà, ça enrichit. Et puis, la deuxième chose, c'est que il est émouvant, au fond, d'arriver à lire quelque chose qui n'est plus l'ancien français, mais quand même encore, 4 siècles et demi après, et de se dire, mais en fait, nous partageons encore la même langue, la même identité, puisque j'y arrive. Et au fond, c'est comme quand je retrouvais un paysage que Montaigne décrit. Quand je traverse le lac de Constance, j'arrive à Meersbourg et Montaigne dit « Ah, les vignes arrivent, que je n'avais pas vu depuis le Bordelais ». J'ai exactement la même expérience, effectivement, de l'autre côté du lac de Constance. Les vignes arrivent, ça veut dire depuis 5 siècles, il y a ces vignes. Et donc cette continuité-là est intéressante et nous rappelle que malgré tous les aléas de l'histoire, toutes les grandes crises de la modernité, toute l'industrialisation, eh bien, il y a en fait également beaucoup de choses qui ne changent pas ou changent doucement, qu'il y a un temps long des histoires, comme disait Brodel.
Antoine Compagnon, il est écrivain, critique littéraire, spécialiste de Proust et de Montaigne. Extrait d'Un été avec Montaigne, une série d'émissions réalisées pour France Inter.
D'abord, le voyage permet de rencontrer la diversité du monde et Montaigne ne conçoit pas de meilleure éducation. Le voyage illustre la richesse de la nature, prouve la relativité des coutumes et des croyances, dérange les certitudes. Ensuite, Montaigne trouve un plaisir physique particulier à la promenade à cheval, laquelle allie le mouvement et la stabilité, donne au corps une balance, un rythme favorable à la méditation. Le cheval libère du travail sans livrer à l'oisiveté. Il rend disponible à la rêverie. L'équitation lui procure une agitation modérée, belle alliance de termes pour désigner une sorte d'état intermédiaire et idéal. Aristote pensait en marchant. Montaigne trouve ses idées en cavalant ou en chevauchant. Il en oublie même sa gravelle, les cailloux de sa vessie. Comme à son habitude, il admet pourtant que son goût du voyage, notamment à cheval, peut aussi être interprété comme une marque d'indécision et d'impuissance. Trop aimer le voyage, c'est se montrer incapable de s'arrêter, se décider, se fixer. Il vit comme il voyage, sans but, ouvert aux sollicitations du monde.
Une marque d'indécision et d'impuissance. Qu'est-ce que vous en pensez
Je pense qu'effectivement, comme dit Montaigne, on ne voyage pas bien quand on ne sait pas changer soi-même au cours de son voyage. Et ce que dit Antoine Compagnon quand il parle de briser les certitudes, c'est que à ce rythme lent et dans ces dialogues profonds avec les gens, on est obligé de se remettre en question et d'écouter tous les points de vue. C'est ce que fait Montaigne, très intentionnellement d'ailleurs, puisqu'il passe par l'Allemagne réformée, protestante, et on est en pleine guerre de religion. C'est une époque où il y a la peste, où il y a des milliers
justement,
de...
Justement, la peste, vous, le Covid, enfin, voilà, je veux dire, il y a des...
Oui.
Non, mais on peut faire des parallèles,
tout à fait,
malgré
oui.
tout.
C'est une époque, en tout cas, très, très agitée, ouais, très complexe, très tendue. Et donc, il va écouter les protestants. Et quand il arrive à Mulhouse, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va dans les églises réformées, il essaye de comprendre ce qui se passe, il va parler aux luthériens, aux zwingliens, aux calvinistes, et possiblement, il va rapporter ensuite tout ça au pape à Rome. Et il essaye de pas vraiment prendre parti pour les uns ou pour les autres. Et on est obligé de faire ça quand on voyage, parce que sinon on se prive de trop d'opportunités. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc, il m'est arrivé de passer une soirée avec des gens fortement antispécistes, véganes, questionnant un peu d'ailleurs la manière dont je prenais soin de mon cheval, même si la randonnée leur paraissait quand même plus acceptable que le saut d'obstacle ou le dressage. Et en cela, d'ailleurs, je ne leur donne pas tort. Et le soir d'après, d'être hébergé dans une ferme par des gens, des paysans qui pratiquaient la chasse à courre. Bon, évidemment, deux univers complètement opposés, idéologiquement en conflit, et sur lesquels je me suis fait une opinion, mais sans prendre radicalement parti, en comprenant ce que disaient les uns et les autres. Et de même, Montaigne va à Mulhouse, première ville réformée. Moi, je suis passé par Mulhouse, Et je me suis dit, bon, eh bien, allons voir la nouvelle religion émergente. C'est pas le protestantisme aujourd'hui, c'est l'islam. Et donc, j'ai été reçu à la mosquée An-Nour, où j'ai passé une très longue matinée, un déjeuner, à discuter avec le recteur, les imams, comprendre l'organisation de l'islam, pourquoi ils construisaient cette grande mosquée qui avait déclenché tant de polémiques, Valeurs Actuelles à dénoncer, enfin, qui est l'objet de beaucoup de débats aujourd'hui. Et plus on parle aux gens, plus on s'intéresse à leur raisonnement, plus on s'aperçoit qu'au fond, chacun a ses raisons et qu'on pourrait parfaitement tous vivre ensemble, pour le dire de manière un peu naïve.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est citer à nouveau Montaigne, la défiance attire l'offense.
Voilà.
Quand on a fait le contraire, ben voilà, c'est ça. Il y a un moment assez fort, je trouve, dans votre récit, qui est que vous vous êtes arrêté quelques jours, une semaine, je crois, à Plombières-les-Bains, et c'est ce qu'avait également fait Montaigne. C'est un souvenir fort, et vous écrivez « Plombières qui donne tout et n'attend rien en retour ».
Et Plombières-les-Bains est une ville assez...
C'est là que vous a rejoint votre femme et vos enfants.
Absolument,
non,
absolument,
voilà.
Absolument.
Je le sais parce que je vous ai lu, hein, je ne suis pas indiscrète.
Tout à fait. Mais voilà, Plombières fait partie des villes dans lesquelles on n'aurait peut-être pas idée d'aller si on ne se promenait pas à cheval sur les traces de Montaigne. Et c'est une ville...
C'est où exactement il faut situer ?
C'est au début des Vosges.
Voilà.
Et c'est une ville très étonnante puisque c'est une ville qui est de bains depuis les Romains. Mmh. Mais qui avait été modernisée, reconstruite par Napoléon III, qui en faisait un peu le Nice des Vosges, si vous voulez, où on allait prendre les bains, c'était très chic, et donc on voit encore tous ces grands bâtiments fin 19e, très imposants, ces thermes, qui sont aujourd'hui quand même assez beaucoup moins utilisés, et donc un peu vétustes. C'est un peu comme Cabourg, si vous voulez, vous voyez une splendeur passée, 19e, qui est en quelque sorte décadente. Alors bien sûr, les gens essayent de relancer l'activité dans la ville, mais...
Vous pouvez loger dans la chambre dans laquelle Proust a dormi, à Cabourg, par exemple. Dans le grand
voilà,
hôtel de Cabourg.
Oui, c'est vrai, j'ai pas fait cette expérience.
Moi non plus, je vous rassure, mais...
Et il n'y avait pas la chambre dans laquelle Montaigne avait dormi à Plombières, puisque l'hôtel avait... était réaménagé depuis belle lurette, mais l'ambiance est évidemment très différente de celle de Montaigne, puisque les bains à l'époque de Montaigne, pour le dire très crûment, ce sont des lieux de débauche. Et la belle société va au bain pour exploser complètement tous les tabous, les curés se défroquent, tout le monde se retrouve nu dans les bains.
Vous savez que vous êtes sur une antenne de service public, hein.
Oui,
êtes en train de nous raconter des choses absolument abominables.
Mais justement, ce n'est plus comme ça, rassurez-vous,
ah,
à notre
bon,
époque.
Vous n'avez pas vu ça, vous, quand vous êtes arrêté.
Alors absolument pas, parce que maintenant, les bains sont, ce sont des termes payés tarifs sécu.
Comment reconnaître un curé quand il est... Enfin, maintenant, ça devient difficile de reconnaître.
Oui, alors le Covid, en plus,
voilà. Bon,
a découragé
bref,
les interactions, passons. Mais donc, Plombières a bien changé, mais reste une ville au charme assez étonnant et dans laquelle j'ai dû passer une semaine puisque ma jument était souffrante. Et donc, voilà, on s'arrête dans des endroits dans lesquels on n'aurait jamais pensé s'arrêter et on finit par les connaître, par lier amitié avec un certain nombre d'habitants et par en profiter, au fond, pleinement.
Jean Delumeau, il est historien, spécialiste des mentalités religieuses en Occident, et c'était sur France Culture, au micro de Jean-Noël Jeannet.
Il est en Allemagne, il passe par l'Allemagne pour aller ensuite en Italie. Et l'Allemagne vit à l'époque, et toute l'Europe centrale, dans la crainte des Turcs. De sorte que, pour entrer à Augsbourg, qui entre parenthèses à l'époque est la ville la plus peuplée d'Allemagne, pour entrer à Augsbourg, non seulement il faut montrer toutes sortes de papiers, si j'ose dire, mais il faut passer par toutes sortes de portes plus ou moins blindées et de chicanes. Et d'ailleurs, Montaigne a été impressionné par tout ce dispositif, mais qui nous montre assez bien ce qu'était la peur du Turc dans l'Europe centrale de la fin du XVIe siècle.
La peur du Turc et le fait de devoir montrer ses papiers. Alors ça, c'est un truc que Montaigne ne supportait pas. Vous non plus, Gaspard Koenig, apparemment. À un moment donné, vous vous faites arrêter par la gendarmerie nationale. Vous cherchez vos papiers. C'est compliqué à trouver parce que vous êtes sur votre cheval. Enfin, voilà, vous êtes sur votre cheval. Et apparemment, vous n'avez pas dû les accueillir avec un grand sourire. Mais vous étiez là où vous ne deviez pas être, en principe.
Oui, j'étais d'ailleurs dans sur la zone de la ZAD de Bure, où effectivement, cheminement est normalement... interdit, mais vous voyez, le grand plaisir du voyage à cheval, c'est que précisément c'est un voyage sans papier, très souvent d'ailleurs sans carte bleue, donc c'est un voyage hors la loi ou hors les lois, puisqu'il n'y a aucun règlement qui s'y applique. Donc n'importe qui, c'est comme le voilier, n'importe qui peut, sans permis, sans assurance, sans certificat, sans diplôme, sans rien, prendre un voilier et partir sur les mers. Et bonne chance à lui, c'est sa responsabilité. Et c'est un peu la même chose pour le cheval. Le cheval est considéré comme un véhicule, n'importe qui peut prendre un cheval, aller sur les routes de France. Évidemment, c'est extrêmement dangereux. Et donc c'est bien pour ça que les gens ne le font pas sans s'être bien préparés, parce que c'est évident, c'est du bon sens. Et en même temps, eh bien, voilà, vous pouvez passer par les chaumes, c'est légal aussi. Vous pouvez couper à travers certains champs, certaines forêts. Et donc, à la fois, vous êtes sous contrainte, parce que, évidemment, il faut toujours chercher un gîte, toujours trouver de quoi nourrir le cheval. Et en même temps, vous êtes très libre, au sens où vous échappez à cet univers de normes, de certificats permanents.
Donc vous n'avez pas envie qu'on vous y ramène, en fait, c'est
et
ça
bah on m'y a ramené de force, puisque quand j'arrive à Rome, place Saint-Pierre, qui était le terminus de mon voyage, donc j'étais quand même assez ému. Je n'ai pas eu droit à l'accueil par le pape comme Montaigne, mais par les carabinieri italiens qui m'ont demandé mes papiers, qui les ont confisqués, qui ont parlé à la radio avec leur chef. J'ai le sentiment qu'on allait finir en garde à vue, même si je pense qu'il n'y avait pas de box aménagée pour Destinada, c'est probablement ce qui les a fait renoncer. Et on a finalement parti, elle a lâché un beau crottin au milieu de...
Et vous étiez très content.
Au milieu de la rue, je me suis dit voilà, c'est une bonne leçon.
Qu'est-ce qu'il aurait dit du pass sanitaire, Montaigne ?
Montaigne, encore une fois, vivait une époque de peste, donc il était bien au courant du danger.
Il y a eu plusieurs fois des épidémies, et dont une fois on lui a reproché, d'ailleurs, il était maire de Bordeaux à l'époque, donc c'était après son voyage, on lui a reproché d'avoir quitté la ville.
Absolument, mais il recommande quand même, parce que donc il voyage en temps de peste, donc il y a certaines villes qui lui sont fermées, parce qu'elles sont confinées, certaines villes où il ne va pas, parce qu'il a peur du virus, certaines villes où on le suspecte lui-même de le transmettre, donc tout est possible, mais il en parle. Et il développe une forme de stoïcisme en disant globalement que...
Il est un peu fataliste,
il dit d'abord il y a une liberté dont je suis très fier qu'on ne me l'ait jamais ôtée parce que je ne l'aurais jamais supportée, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la liberté de circulation. Et il dit bien qu'il faut être toujours botté et prêt à partir. C'est-à-dire qu'il faut penser à la mort. C'est un de ces chapitres célèbres. Et ça aussi, c'est très stoïcien. Et que quand on a apprivoisé, adopté l'idée de la mort, quand on a accepté l'idée de la mort, eh bien, on accepte aussi l'idée de risque. Et on comprend qu'on ne peut pas s'enfermer, arrêter de vivre par peur de mourir. Il y avait un peu l'équivalent du pass sanitaire à l'époque, notamment quand il est en Italie, il doit produire toutes sortes de certificats de bonne santé pour rentrer dans les villes. Donc c'est évidemment normal que la société se protège. Mais à l'époque, vous aviez plein d'interstices par lesquels vous pouviez glisser. C'est vrai pour les certificats Covid, mais c'est vrai pour les papiers tout court, parce que Montaigne devait se présenter à la porte des villes, mais il n'y avait pas de passeport, par exemple. Donc il pouvait circuler quand même assez librement. Et aussi, aujourd'hui, on vous dit c'est la libre circulation en Europe, mais je suis bien placé pour savoir que quand vous êtes avec un cheval, il n'y a pas de libre circulation. Le cheval est considéré comme de l'import-export. Vous devez avoir toutes sortes de certificats très compliqués. Ça m'a posé plein de problèmes pour passer un certain nombre de frontières en Suisse, entre l'Allemagne et l'Autriche,
en
etc.
Suisse, il n'est pas de bon ton que le cheval, que de laisser le crottin de son cheval.
Oui, alors c'est absolument. La ville de Zurich m'avait précisé, parce que j'avais demandé l'autorisation de passer, que je ne pouvais la traverser qu'à condition de ramasser mon crottin, ce qui techniquement devenait quand même assez compliqué. Alors même que le crottin est, comme vous le savez, un engrais, un fertilisant tout à fait merveilleux.
Pas pour le béton.
Mais justement, les gens peuvent aller le ramasser. À l'époque, les gens allaient ramasser le crottin de cheval, parce que pour les jardins et les champs, c'est encore ce qu'il y a de plus nourrissant et totalement écologique. Mais enfin, tout ça pour dire que on a aussi refermé notre espace, et on le voit quand on lit Montaigne, quand on lit Casanova, quelques siècles plus tard, c'est des gens qui se promènent assez librement dans l'Europe. Quand on lit Stefan Zweig aussi, qui rappelle qu'avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait même pas véritablement de passeport, même pas dans notre frontière. Et donc on dit qu'on a rouvert l'espace, oui, mais à partir d'un espace qui a été complètement cadenassé par le XXe siècle et ses États-nations. Et ça, on le ressent aussi quand on voyage à cheval, parce qu'on nous demande à chaque frontière nationale toutes sortes de papiers, et ça gâche un peu ce plaisir, cette liberté, ce côté hors-la-loi qui fait quand même le bonheur du voyage à cheval.
Curtis Harding sur France Inter. Gaspard Koenig, il est grand temps d'évoquer votre compagne sans laquelle vous ne seriez pas allé bien loin, Destinada, et non pas Destinata, comme je me l'étais... mais comme elle est,
espagnole,
et vous m'avez dit qu'en plus elle était assez fière et ombrageuse, voilà. Donc je voudrais pas lui occasionner un coup de sabot de sa part. C'est une merveilleuse jument grise. Je dis merveilleuse parce qu'on la voit d'abord, on l'appréhende en vous lisant, et puis on voit pas mal de photos d'elle aussi dans le livre avec laquelle donc vous avez parcouru ces 2500 kilomètres entre la tour de Montaigne, je le rappelle, et Rome, en suivant les pas de Montaigne. Elle a eu beaucoup de bobos, la pauvre, vous en avez pris grand soin, vous avez fait appel à plusieurs reprises au maréchal Ferrand,
oui.
Alors que vous les aimez pas, eux, hein.
Vous
les aimez pas trop.
Ils sont très difficiles à mobiliser parce que ils ont énormément de travail, les maréchaux.
De travail, ils ont un emploi du temps de ministre et ils trouvent toujours que celui qui a travaillé précédemment l'a mal fait. Bien. Est-ce que vous, parce que vous connaissiez un peu quand même les chevaux avant ou pas du tout?
Un peu, mais pas tant que ça. J'avais fait du cheval de manège, c'est-à-dire rien du tout en fait. Et pour préparer cette aventure, j'ai dû d'abord désapprendre l'équitation traditionnelle, tenir les rênes, mettre son cheval sur la main, tout ça c'est fini. Il faut plus y penser, il faut être rênes longues, il faut diriger son cheval à la voix, faut être beaucoup plus uni avec sa monture.
Les rênes allemandes, c'est pas pour
un... Il n'y a plus de rênes du tout là, c'est
rênes
longues.
Et
puis j'ai appris des techniques, la maréchalerie par exemple, pour savoir quand même enlever, remettre un fer à cheval, la bourrellerie pour recoudre une reine, le matelotage pour faire des nœuds, la cartographie évidemment.
Et ça, Montaigne s'en est pas occupé, là il avait du personnel.
Ah oui, là, complètement. Alors que moi j'ai dû apprendre donc un travail manuel qui m'a beaucoup d'ailleurs beaucoup plu et qui m'a fait réfléchir sur même la notion de travail, la notion de division du travail, parce que c'est vrai que fabriquer soi-même un objet, c'est quelque chose dans lequel on investit une partie de soi, c'est pas seulement un bien matériel. Et après surtout, j'ai dû apprendre le cheval, non pas pour le maîtriser, mais pour qu'il devienne un compagnon. Et je pense que pour ça, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut éliminer vraiment l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que si on commence à penser que son cheval est gentil et méchant, il a réagi comme ça parce que il m'en veut, parce que tout ça, on passe complètement à côté, on se fait des nœuds au cerveau. Donc il faut partir sur une relation un peu neutre, presque transactionnelle. Je lui apporte la sécurité de la nourriture, elle m'apporte le transport, ça marche comme ça, et on verra après pour les sentiments. Et ces sentiments, néanmoins, ils naissent, mais peu à peu, d'eux-mêmes, doucement. Et c'est ça, c'est ce que dit très bien Montaigne dans les premières pages modernes, véritablement, sur l'animal, dans l'Apologie de Raymond Sebond, quand il parle de ce dialecte que l'on peut élaborer entre l'homme et l'animal, quand il parle aussi de l'absence de frontières d'essence entre l'animal et l'homme, qu'il dit qu'il y a plus de différence entre tel homme et tel homme qu'entre tel homme.
Tel animal et tel
animal.
Tel animal, oui.
Et là, apparaît...
Ils ont vie et sentiment pour lui, les...
Complètement, ce sont des individus. D'ailleurs, il dit qu'il faut étendre le sentiment d'humanité, non seulement aux animaux, mais aussi aux arbres et aux plantes. Il va plus loin. Et effectivement, il y a une communication qui s'installe. Alors, de manière très concrète, je siffle, elle hennit. Mais aussi de manière plus subtile, il y a des émotions que l'on partage au cours de journées où on peut traverser des moments difficiles et on va véritablement se consoler. Et puis, il y a eu ce moment pour moi très particulier où j'ai cessé de la tenir. Auparavant, quand je marchais à côté de la jument, je prenais les rênes un peu par réflexe. Et puis, à un moment donné, j'ai cessé, j'ai juste posé les rênes sur la selle et elle me suivait ou elle m'accompagnait, ou parfois d'ailleurs elle passait devant. Et c'est pas que j'ai pris un pari ou que j'ai essayé ou quoi. C'est qu'à un moment donné, la question ne se posait plus. Comme quand vous vous promenez en forêt avec un ami, vous vous dites pas, il va fuir, il va partir à travers les arbres. Non, vous ne tenez pas par la main. Et ben là, c'était pareil. Il n'avait plus aucune raison de s'en aller, en fait. Et je comprenais instinctivement. Et du coup, ça changeait un peu le rapport, puisque ce n'est plus un rapport de maîtrise ou de contrôle, mais c'était un rapport, alors pour le coup, de confiance et de compagnonnage.
Et finalement, elle en a vu autant que vous.
Elle en a vu autant que moi, et puis elle m'a parfois, c'est moi qui lui indiquait le chemin par où il fallait passer, évidemment, et parfois c'est elle qui m'indiquait que, par exemple, tel chemin était trop meuble, que nous risquions de nous enfoncer dans un marécage qui nous est arrivé dans la forêt allemande, dans une scène particulièrement tragique. Mmh. Mais enfin, c'était elle aussi, quand je savais l'écouter, ce qui n'était pas toujours le cas, qui me disait des choses. Et effectivement, après avoir vécu tout ça, on ne peut que comprendre, hein, c'est un peu évident, mais enfin, que les animaux sont des individus à part entière, et militer quelque part pour qu'ils aient aussi des droits, parce que le droit, c'est une construction sociale qui est liée à l'individualité, je pense.
Alors on est presque à la fin du voyage, parce que nous arrivons en Italie. L'écrivain Michel Chaillou.
Quand on lit Le Voyage, et c'est cela d'ailleurs qui fait tout le charme de Montaigne, c'est qu'il y a une sorte de conflit sensible entre ses idées, qu'il entretient intérieurement à cheval ou à pied, et les paysages et les rencontres qu'il fait. Il y a une sorte de conflit sensible entre donc ce que lui présente le concret du monde et en même temps sa propre intériorité. Il y a une sorte de plaisir à entendre se fracasser dans la langue de quelqu'un tous ces objets qui composent l'animalité de nos vies, les tables, les chaises, les chiens rencontrés, les animaux et tout un pays en suspens autour du voyageur, et en même temps la grandeur de sa pensée qu'il nous tait, parce qu'il ne nous dit pas de grandes choses comme dans les essais. Mais comme nous avons lu les essais et que nous savons qu'il y a de grandes choses et que sa pensée est aussi grande que l'Italie qu'il visite, on a une espèce de plaisir de sentir un si grand esprit s'amuser avec du sel ou du sucre, rompre du pain, boire un vin un peu émollient ou énergique, etc., etc. À la réflexion, je me demandais si l'Italie, c'était pas l'équivalent du château dans lequel il va s'enfermer pour écrire où il s'enferme pour écrire les essais. Parce qu'on a l'impression qu'en se promenant à travers l'Italie, c'est un peu les stocks de son imaginaire qu'il est en train de reconstituer. Et qu'une fois qu'il aura reconstitué tous les stocks de son imaginaire, il n'aura plus besoin d'autre chose, il pourra s'enfoncer dans son château dans le Périgord. C'est les munitions de son imaginaire qu'il a été trouvé.
Gaspard Koenig, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michel Chaillou ?
Je serais un tout petit peu plus pragmatique. Je trouve que le journal de voyage, c'est un journal de notes, véritablement, qui n'était pas destiné à être publié.
Publié, c'est ça. D'ailleurs, il faut expliquer que c'est pas lui, c'est d'abord quelqu'un il avait un secrétaire qui lui écrivait au jour le jour des choses. Et après, il a tout repris une fois rentré chez lui.
Alors, en fait, c'est-à-dire qu'il a continué le travail du secrétaire quand il arrive à Rome. Et là, c'est lui qui prend la plume. Mmh. Et effectivement, du coup, le récit est un petit peu plus élaboré. Mais comme moi, je prenais des notes tous les soirs avant de m'endormir. Bon, c'est des notes télégraphiques. C'est effectivement, mais pas des pensées très profondes, mais c'est pour ne rien oublier des noms, des lieux, et c'est ça en fait, le journal de voyage de Montaigne, et c'est ça que, là pour le coup, comme on l'entend très bien, c'est ça qui est émouvant, puisque c'est extrêmement concret, on voit ce qu'il mange, si les draps sont confortables ou pas, et tout ça donne beaucoup d'indications évidemment, avec lesquelles ensuite on peut faire interagir notre modernité. On parle aussi des langues, et Montaigne absorbe tout, et il essaye de toujours se mêler à l'environnement qu'il traverse, par respect au fond, donc il va mettre d'un chapeau en fourrure à Augsbourg, comme le font les notables du lieu. Et quand il est en Italie, et parce qu'il est très fort et beaucoup plus doué que moi, il apprend l'italien. Il apprend l'italien au point qu'il termine l'écriture de son journal directement en italien. Alors bien sûr, ça n'a pas été mon cas, mais j'ai néanmoins mis un point d'honneur à ne pas prononcer un mot d'anglais pendant ce voyage, et donc à utiliser en Allemagne mon allemand très scolaire, en Italie mon italien vraiment balbutiant que j'avais appris dans le Becherel avant de partir. Alors évidemment, c'était très chaotique et à grand renfort de gestes et d'hésitations.
Mais peut-être que être libre, aussi. C'est peut-être ça aussi. Hein.
Mais précisément, c'est pouvoir essayer quelque chose, s'installer dans un pays, se mettre dans sa langue, même si on fait des fautes constamment, même si on dit parfois un peu n'importe quoi. Je me rappelle quand j'arrive à Rome et je vois un troupeau de moutons et je dis au berger quel beau mouton, et non, c'était le mauvais mot, j'avais dit quelle belle vache ou quelque chose comme ça. Donc, toujours en train de...
Il a compris quand même.
Oui, mais toujours en train de faire des faux pas, mais c'est ça qui est aussi qui est amusant et qui permet de nourrir la relation. Après, dans le cas de l'Italie, Je ne sais pas si ça a beaucoup nourri mon imaginaire parce que...
Pas la Toscane en tout cas.
Mais c'est-à-dire que j'ai trouvé
vous
que...
Vous n'avez pas aimé la Toscane.
Mais l'Italie est tellement pleine de son propre imaginaire que j'ai eu le sentiment que les gens finissaient par vivre dans leur propre vitrine, à jouer leur propre rôle.
Et... Pas tous les Italiens.
Non, mais pas tous les Italiens, mais tout de même, j'ai été frappé de ne jamais être accueilli à table, par exemple, dans une famille toscane. Alors qu'en traversant la France et l'Allemagne, c'était tous les soirs que j'étais
accueilli. Vous allez venir chez moi, je vais vous inviter.
Avec grand plaisir. Voilà
je voudrais, Gaspard Koenig, si vous voulez bien qu'on finisse sur cette phrase de Montaigne, que vous faites vôtre, et que je trouve magnifique. Si seulement le monde pouvait ressembler à une journée à cheval, à la fois plus ouvert et moins uniforme. C'est beau.
Oui, et plus ouvert et moins uniforme, ça veut dire que moins normé et plus respectueux de la diversité, des singularités que sont les êtres humains et aussi les animaux.
Et où est la jument? Parce que ça, je ne vous ai pas posé la question. Où est-elle aujourd'hui?
La jument est de retour là où nous nous sommes rencontrés, c'est-à-dire dans un pré normand. Et par rapprochement conjugal, je me suis acheté un vieux corps de ferme tout près d'elle. Où je vais la retrouver autant que possible, au moins
je crois que vous y allez demain, non?
Exactement.
C'est ça. Merci Gaspard Koenig, notre vagabonde liberté à cheval sur les traces de Montaigne. C'est donc le titre du livre que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup.
Merci.
À suivre Unique en son genre de Julia Foyce. Et puis la semaine prochaine, nous recevrons Frédéric Worms, qui sera donc notre invité. On parlera de pandémie.